Alors, j'ai échangé avec mon épouse avant cette prédication, mais je n'ai pas validé à 100% ce que je vais dire avec elle. Donc, vous permettez que je lui parle avant que vous lui parlez, si vous voulez bien. Okay? Elle n'est pas là maintenant, elle est avec les enfants, je pense. Cette semaine, j'ai commencé à travailler de façon sérieuse ce texte que nous avons sous les yeux. Matthieu 19, et c'était mardi où je me suis mis avec quelques heures de réflexion là-dessus. Mais j'avais deux réunions en fin de matinée. Ensuite, à midi, je n'avais pas de réunion. Et je me suis dit que j'avais le temps, après la deuxième réunion, de passer vite fait à Colruyt, faire quelques petites courses avant de rentrer chez moi. Et j'envoie un mot à madame en lui disant que je comptais faire cela et qu'elle pouvait me dire si elle voulait... si moi, je prenne quelque chose à Colruyt, parce que souvent, ce n'est pas moi qui fais ça. C'est dans notre couple, ça fonctionne comme ça. Ben, elle ne m'a rien dit, et je rentre un peu plus tard, et je n'ai toujours pas de nouvelles de sa part. J'avais cru, moi, qu'on allait manger un bout à deux, et c'est une chose plutôt rare pour nous de faire cela. Mais elle, sans me le dire, elle est passée en même temps dans un autre Colruyt, en fait. Après un rendez-vous qu'elle, elle avait, sans me le dire, ça arrive. Et elle est passée quelque temps avec cette autre personne, un autre rendez-vous. Et oui, quelques articles donc étaient achetés en doublon, il faut le dire. Un peu frustrant, mais ça arrive. Il faut dire que parfois la communication n'est pas toujours en haut de la liste de madame. Et la patience n'est pas toujours tout en haut de la liste du monsieur. Donc, je mange un bout seul, et vers 14 heures, elle m'appelle, après avoir terminé d'autres courses ailleurs, elle. Ben, je lui fais connaître, de manière très douce, bien entendu, ma légère frustration en ce qui concerne un certain manque de communication. On rigole un peu sur les doublons achetés à Colruyt. Et elle me dit qu'elle rentrera d'ici peu. Elle me demande sur quoi j'ai travaillé ce matin, et je lui réponds, le divorce. Alors j'appelle ça le sens d'humour de notre Dieu. Et bien sûr, j'avais tort de dire cela, car en travaillant en Matthieu 19, je ne travaillais pas le divorce. Car le sujet principal, ce n'est pas le divorce, mais le mariage. C'est le mariage que Jésus veut préserver, pas le divorce qu'il cherche à encourager. Nous venons dans l'Église de terminer le chapitre 18, on y était pendant plusieurs semaines, un chapitre consacré à un enseignement un peu prolongé de Jésus à ses disciples au sujet des valeurs clés de ceux qui participent à son royaume. Mais vous verrez là, dès le début de notre texte ce matin, que Matthieu maintenant nous fait sortir de ce moment prolongé d'enseignement de Jésus. Verset 1, lorsque Jésus eut fini de prononcer ses paroles, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée. Là, il continue son ministère auprès de la grande foule, pas uniquement auprès de ses disciples. Continue donc à témoigner de sa mission de restauration de l'être humain à part ces miracles qu'il effectue. Et dans ce cadre plus public, il y a ceux qui cherchent à le lancer le piège. Des pharisiens, selon le verset 3, qui lui posent cette question. Est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif? Ils n'ont pas en tête de vouloir honorer Dieu avec cette question. Ils veulent semer le trouble. Car au moment où ils posaient cette question, il y avait deux courants dans le judaïsme, deux écoles différentes, si vous voulez. L'une qui suivait un rabbi qui disait que le divorce était permis pour des choses graves, et l'autre qui disait que c'était possible pour toute cause ou pour n'importe quelle motif. Et il soupçonnait probablement Jésus d'être conservateur sur cette question. Il cherchait à créer des troubles pour lui par rapport à sa réponse. Mais Jésus n'a pas d'intérêt à renforcer leur point de vue, leur positionnement sur un débat assez technique à l'époque. Mais son intérêt, c'est d'exposer à quel point un tel débat révèle l'éloignement d'une vie consacrée à honorer notre Dieu, celui qui a instauré le mariage pour tout être humain. Et ça, ça nous mène à notre premier point. Vous allez voir ça sur le livret, si vous avez cela, ce morceau de papier au milieu, il y a un plan de ce que nous allons voir ensemble. Le mariage est une union faite par Dieu, préservons-le. Le mariage est une union faite par Dieu, préservons-le. Verset 4, il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme, et qu'il a dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Le mariage, chers amis, Jésus le dit ici, vient de Dieu. Il est créé par Dieu. Lorsqu'un homme quitte sa famille et s'attache à sa femme, les deux ne feront qu'un. Une seule nouvelle entité ou unité sociale et familiale autour de laquelle notre société a toujours circulé jusque-là, continue à circuler aujourd'hui, bien entendu avec des expressions culturelles et cultuelles différentes. Mais ce n'est pas ici une union ontologique, on peut le dire, au niveau de l'être dont Jésus parle. Non, dans mon mariage, moi je reste Steve Orange et mon épouse, elle reste Dawn. Dawn Hegarty, c'est son nom de famille, si ça vous intéresse. Même si parfois, c'est vrai, l'un ou l'autre aimerait que ça devienne une union ontologique. Comme ça, on n'achètera plus des doublons à Colruyt. Mais c'est une union, néanmoins, que ce soit une union sociale, familiale. Le mot est souvent employé par des théologiens pour désigner ceci, c'est une alliance, un accord entre deux personnes qui implique des engagements solennels, qui demande des conséquences au cas où l'un ou l'autre rompt de tels engagements. Au lieu donc d'être des unités différentes, il n'y a qu'une seule créée par Dieu. D'où vient l'exhortation de ne pas séparer ce que Dieu a uni. Et si vous êtes marié ce matin, ce n'est pas simplement donc un arrangement entre deux personnes, jusqu'à ce que cet arrangement ne convient plus à l'un ou à l'autre, ou même aux deux. Non, c'est une alliance dont Dieu est témoin. Dieu vous a unis. On monte bien sûr d'un cran lorsque nous réfléchissons de la sorte, n'est-ce pas? C'est la volonté de Dieu que votre mariage ne soit pas rompu. En Belgique, plus d'un mariage sur deux termine par le divorce. Et cela, savez-vous, est relativement peu ce taux-là par rapport à l'Europe dans son ensemble. Une telle réalité se ressent évidemment aussi dans notre Église, dans l'Église chrétienne. J'ai essayé brièvement cette semaine de calculer par rapport aux différentes unités familiales qui se trouvent dans notre Église, parmi nos membres, juste pour avoir une idée. Et il me semble qu'environ, peut-être juste un peu plus bas que ceci, un quart de ces unités familiales ont été touchées par le divorce. Moi-même, dans ma famille, j'ai des parents divorcés. Nous vivons à une époque où il y a des conséquences dans nos églises par rapport à cet enseignement que nous voyons dans ce texte. Donc avant de nous adresser directement à la question des exceptions éventuelles à cette règle, aux péchés graves au sein du couple, prenons un moment pour cogiter cette exhortation de ne pas séparer ce que Dieu a uni. Et donc ici, je vise tout le monde. Je ne vise pas uniquement, chers amis, ceux qui sont mariés parmi nous. Je vise les ados qui réfléchissent petit à petit à l'intimité, à un avenir dans ce sens. Je vise les célibataires qui réfléchissent peut-être pendant un long moment déjà par rapport au futur. Et je m'adresse aussi aux mariés, mais aussi aux divorcés par rapport à votre potentiel futur. Nous avons tous besoin d'entendre ce que le Seigneur nous dit, que nous soyons mariés ou que nous espérons l'être à un moment donné dans l'avenir, que nous soyons célibataires et nous voulons simplement comprendre et soutenir ceux qui sont mariés pour le bien de leur mariage, mais pour le bien aussi de notre Église, chers amis. Alors, nous pouvons commencer, on aurait pu commencer, avec les effets du divorce sur la famille, sur les enfants, sur l'environnement même. Oui, réfléchissons, si vous voulez bien, qu'un point de vue de notre empreinte carbone, à quel point cela sera réduite s'il n'y avait pas de divorce. Divorce signifie deux foyers, deux voitures, deux machines à laver, deux chaudières, et ainsi de suite. Des effets, il y en a, mais ça, on n'ose pas en parler en public. Mais ce n'est pas, ceci dit, un avertissement des conséquences du divorce qui empêchent le divorce. Car nous pouvons partager, je pense, à juste titre, le regret à propos de certaines conséquences, tout en maintenant un positionnement que le divorce est hélas nécessaire. Pourquoi ? Car la raison numéro un que nous entendons par rapport au divorce est celle-ci. Si l'amour n'y est plus, ce n'est que de l'hypocrisie de continuer dans un couple. C'est de vivre à ce moment-là dans le mensonge, c'est de ne pas libérer chacun afin de vivre de manière heureuse et épanouie par la suite. Comment la volonté de Dieu peut-elle être de vouloir enfoncer le malheur au sein du couple? C'est ça la raison principale pour le divorce. Et c'est de comprendre, chers amis, l'amour comme une quantité fixe. Dans le comble, c'est le moment où on se marie, où il y a la cérémonie. Combien, disons-nous, qu'ils aiment, ils s'aiment ce magnifique couple devant nous. Et si nous aimons un peu Disney, nous chanterons lors de la première danse des mariés quelque chose qui ressemble au roi lion, qui dit « Can you feel the love tonight ?» C'est-à-dire, ressentez-vous l'amour qu'il y a ce soir. Et selon cette façon de voir le mariage, nous pouvons rejoindre ce sentiment. Dans ce champ, pas besoin de regarder trop loin, car malgré les choses peu certaines de la nuit, l'amour, c'est là où ils sont. En anglais, you needn't look too far, stealing through the night's uncertainties. Love is where they are. Bah, c'est beau à chanter cela, mais c'est différent de vivre cela. Parce que c'est un peu comme on pense au mariage comme un plein d'essence que nous faisons à une station de service. Le jour du mariage, c'est donc le temps du réservoir plein d'amour. Ça commence bien. Et la vie du couple, le départ à la pompe à essence pour un long voyage. La question qui se pose, alors, est celle-ci. Y a-t-il assez d'amour dans le réservoir pour tenir jusqu'à ce que la mort nous sépare? Certains d'entre nous y arrivent en conduisant de manière prudente, jamais au-dessus, 90 km par heure. D'autres parmi nous ne sont pas aussi chanceux. Ils consomment trop d'essence, trop tôt dans le voyage et rencontrent des difficultés inattendues auxquelles ils doivent faire face au fil du temps. Et alors nous découvrons qu'il n'y a pas assez d'amour dans le réservoir. Mais il ne devrait pas en être ainsi pour nos mariages, chers amis. Tout d'abord, le mariage n'est pas une déclaration d'avoir, de posséder une certaine quantité d'amour pour l'autre. Non. C'est une promesse solennelle d'aimer dans l'avenir, quoi qu'il arrive. Car les sentiments laissés à eux seuls ne suffisent pas pour qu'un couple traverse l'avenir à deux. Non, il faut aussi une détermination à aimer à un coup, à nous-mêmes, pour le bien de l'autre. Si nous roulons toujours sur l'amour que nous avions l'un pour l'autre au départ, alors à un point de votre parcours, il y a de fortes chances que vous allez rouler à vide. Mais l'amour, selon la Bible, se pratique, se construit. C'est juste que nous nous rappelons d'un texte tel que 1 Corinthiens 13 qui nous dit ceci par rapport à l'amour. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Voilà pourquoi un texte aussi négatif? Pourquoi faut-il être patient, ne pas s'irriter, espérer, supporter? J'ai envie plutôt de chanter Disney, non? Parce que c'est réaliste, chers amis. Unir deux personnes qui sont nées en Adam, c'est le cas pour chacun d'entre nous, c'est de mélanger quoi avec quoi? Du péché avec du péché. Pas de surprise que ça crée du péché. C'est ça, la réalité de l'être humain. J'ai rencontré, en fait, cette semaine, et j'avais la joie de rencontrer les deux couples de notre Église mariés pour la plus longue durée. Il s'agit de Edwin et Anne. Edwin est avec nous, Anne est dans sa résidence, ne peut pas être avec nous. Mariés depuis cet été, juillet cet été, pendant 50 ans, pour 50 ans. Félicitations à Edwin et Anne, mais on ne va pas applaudir maintenant. Luc et Monique Vanas, aussi pour le moment dans un home, 50 ans l'année prochaine. Et je leur ai demandé, les deux couples, parce que je savais que j'allais prêcher ici, le secret de leur mariage, la durée de leur mariage. Tous les deux me disaient, dans les deux couples, me disaient qu'ils avaient appris à pratiquer le pardon au sein du couple. Edwin m'avait cité Éphésiens chapitre 4, verset 32. « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement. » comme Dieu nous a pardonné en Christ. Parce que oui, le mariage est précieux. Dieu, il est investi là-dedans. À un point que le mariage, votre mariage, pointe le doigt vers la fidélité de Dieu dont nous avons chanté déjà ce matin. La fidélité de Dieu envers sa mariée, son peuple. Il s'agit donc de cette relation qu'il y a entre Christ et son Église. Si dans le Nouveau Testament, l'homme est exhorté de se sacrifier pour le bien de sa femme, c'est parce que c'est un reflet de ce que Christ a fait pour son Église. Il a donné sa propre vie pour elle. Et si la femme, de façon volontaire et intentionnée, est appelée à se soumettre au leadership de son mari au sein du couple, c'est parce que cela témoigne de la joie de l'épouse de Christ, de l'Église, de se soumettre à son leadership bienveillant. Oui, chers amis, hélas, nous ne faisons pas ceci de manière parfaite dans nos couples. Mais cela nous pointe vers celui qui est parfait. Combien c'est beau lorsque cela est pratiqué pendant 50 ans, chers amis. Puissant, car évidemment le chrétien possède une motivation d'aimer l'autre de la sorte que le monde autour de nous ne le possède pas. Il s'agit de quoi? Le pardon que nous avons reçu en Christ. Donc il faut y travailler, nos mariages. Il faut investir du temps là-dedans. Il faut lire de temps à autre 1 Corinthiens 13 et se demander « Où suis-je par rapport à mon amour pour mon conjoint ?» Cela ne coule pas des sources. C'est pas parce que je l'ai dit, pour mon cas, il y a 26 ans, devant les autres, que ça suffit, que je n'ai pas besoin de me remettre en question par rapport à mon amour. Je dois continuer à alimenter cet amour au sein du couple. Un mot ici à ceux qui ne sont pas mariés ou ceux qui visent éventuellement dans le futur le mariage. Il faut absolument, chers amis, prendre du temps pour y réfléchir. Ne pas être juste pris sur la vague de l'émotion, du désir, du sentimentalisme. Il faut comprendre qui toi tu es, tes propres motivations, ton propre cœur, et jusqu'à quel point tu vas devoir te sacrifier pour le bien de l'autre. Il faut être réaliste par rapport à ce que cela nous demande, chers amis. Se marier, ce n'est pas juste des paroles dans l'air. Ça compte ce que nous disons, parce que ça compte aux yeux de Dieu. Lorsque récemment un ami proche m'a cité des raisons plutôt égoïstes pour se séparer de sa femme, qu'il ne ressentait plus d'amour pour elle, quand malgré son souhait n'a pas pu s'adapter à ce qu'il voulait d'elle, elle ne consacrait pas suffisamment de temps à une activité qu'il désirait, lui, pour la famille, j'ai dû lui dire que je me ne souvenais pas d'avoir entendu de telles promesses au jour du mariage. J'avais plutôt entendu des promesses d'aimer, quoi qu'il arrive, de prendre soin de l'autre, dans les bons et les mauvais moments. Alors on termine ce point, chers amis, nous disons que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Deuxième point, parce que nous devons aborder les versets 7 à 9. Le péché grave peut rompre le mariage. Évitons donc ce péché-là. Verset 7, « Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie ?» Il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. Mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Bon, ici, la question posée parle d'un texte de l'Ancien Testament, Deutéronome, chapitre 24, les premiers versets de ce chapitre, là où la loi de Moïse permet, en cas de quelque chose de honteux, que le divorce est permis. Pourquoi une telle exception a été donnée, selon Jésus? Verset 8. À cause de la dureté de votre cœur. Pas la dureté de celui qui voulait divorcer, mais la dureté d'un point de vue de l'être humain dans son ensemble, où l'infidélité, malheureusement, est parfois pratiquée. Dans ce cas, et Jésus lui-même donne cette exception lorsqu'il dit, verset 9, « Sauf pour cause d'infidélité, le divorce, et donc selon moi, ensuite, le remariage est permis. Cela signifie que le divorce n'est pas toujours un péché. Et, mais c'est important à souligner ceci. Lorsqu'il y a un divorce, cela témoigne que certainement le péché a eu lieu. Le mot traduit ici par infidélité, c'est le mot en grec pornéa. Le mot d'où vient le terme qu'on utilise aujourd'hui pour la pornographie. Mais cela vise toute immoralité sexuelle. Viol, inceste, pédophilie, adultère et oui, même la pornographie. Dans de tels cas, le divorce, et d'après la plupart des commentateurs, le remariage pour la victime d'une telle immoralité est permis. Jésus a déjà donné cette exception au chapitre 5 de cet évangile. Le mariage, après tout, c'est une alliance, nous avons dit. Et tristement, c'est possible de rompre une alliance. Judas, le peuple de Dieu de l'Ancien Testament, a rompu son alliance avec le Seigneur. Le Seigneur avait le droit de terminer par conséquent ce mariage entre lui et son peuple. Il a choisi de ne pas le faire pour notre bien, mais cela a été permis. Et c'est permis le divorce pour toute personne victime d'un tel acte. Pour diverses raisons, c'est comme ça. Car parfois la trahison ou la méchanceté est d'un ordre que la confiance est brisée. Malgré, prions pour cela, la lumière de ce que nous avons entendu la semaine dernière, un désir, bien sûr, de vouloir pardonner. Mais le pardon ne signifie pas que d'office le mariage doit continuer. Nous ne devons pas ajouter à la peine d'une telle personne victime d'un tel acte en faisant croire à la personne que la réaction chrétienne devrait être de sauver le mariage à tout moment. Oui, ce n'est pas que le divorce doit avoir lieu. Parfois, merci Seigneur, un rétablissement est possible. J'ai des exemples en tête lorsque je dis cela. Mais parfois, ce n'est pas possible. Et la question se pose, donc, y a-t-il d'autres exceptions à part celles que nous voyons ici? Paul en mentionne une, lui, lorsqu'il écrit sa lettre aux Corinthiens, le chapitre 7. Lorsqu'il y a ce que nous appelons l'abandon de la part d'un conjoint non-croyant, une fois que le conjoint qui là est devenu chrétien, croyant en Christ, le croyant ne doit pas chercher, lui, à partir dans un tel cas, mais si son partenaire, son conjoint, lui, part, alors à ce moment-là, le croyant est aussi libre de se remarier. Donc d'office, il y a deux circonstances, l'infidélité, l'immoralité sexuelle et l'abandon de la part d'un conjoint non-croyant. Y en a-t-il d'autres? Alors, certains diront qu'il n'y en a pas, car voici seules les exceptions que donnent les Écritures. Mais certains réclament, et je suis compté parmi le nombre, que Paul, lorsqu'il écrit 1 Corinthiens chapitre 7, évoque un autre texte de l'Ancien Testament, Exode chapitre 21, au verset 11, qui dit ceci en ce qui concerne les responsabilités d'un homme auprès de sa femme. Il ne supprimera rien à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugaux. Le refus d'entamer des relations sexuelles au sein d'un mariage ou le refus de pourvoir aux besoins matériels et physiques de sa femme représente également une violation délibérée, radicale de l'alliance matrimoniale. C'est difficile, je pense, de voir en quoi est-ce que l'immoralité sexuelle est plus grave, par exemple, que la violence conjugale. Même si nous disons que l'exception que Jésus donne ici n'envisage pas d'autres exceptions, je pense que nous devons avouer que c'est une exception adressée à un homme de divorcer à sa femme et ne parle pas du cas d'une femme qui divorce son mari. Et lorsqu'il est question de violence conjugale, c'est quasi toujours un péché qu'un homme commet envers sa femme. Donc, ce n'est pas une question à laquelle Jésus s'adresse directement. Est-ce que Jésus donne cette exception pour encourager le divorce? Non, il la donne pour que nous évitions un tel péché. une telle dureté de cœur, là où le péché grave nécessite une séparation. C'est terriblement difficile lorsqu'une une chose pareille arrive. Le divorce, on me dit, c'est souvent vécu comme lorsque nous perdons un proche par le décès. C'est une rupture qui a lieu. Cela témoigne, bien entendu, d'un échec. Et ici, pas juste sur le plan professionnel. Déjà, on a du mal lorsqu'il y a un échec sur le plan professionnel. Mais ici, c'est sur le plan personnel, ce que je suis. Et donc, il y a toujours des sentiments de culpabilité, de honte, toujours le regret, même si nous sommes innocents par rapport aux faits. Nous avons célébré, chers amis, la fidélité de Dieu ce matin. Dieu tient son peuple à refléter cette fidélité. Soyons fidèles en allant de l'avant. Le mariage est censé créer un cadre où nous pouvons nous ouvrir à quelqu'un d'autre dans l'intimité, sans peur du rejet, que je ne suis pas à la hauteur des attentes de l'autre. Pourquoi ? C'est un cadre où c'est sécurisé, car le couple a prêté serment devant des témoins, devant Dieu, qu'ils vont s'aimer dans l'avenir. Et c'est beau à entendre de telles promesses. Et donc, oui, dans ce cadre, même lorsqu'il y a des erreurs, et il y en a, le pardon règne pour 50 ans, nous avons entendu. La persévérance règne, la patience règne. Mais commettre, si vous voulez, un péché grave, c'est de secouer le cadre que donne le mariage. Et donc, nous devons l'éviter à tout prix. Et nous devons nous soutenir les uns les autres lorsque de telles circonstances arrivent. Et elles arrivent, chers amis, même dans notre Église. Le péché grave peut rompre le mariage. Évitons-le. Et dernier point, et peut-être un point un peu plus court pour pouvoir terminer, le royaume vaut bien plus que le mariage. Le royaume vaut bien plus que le mariage. Chérissons-le. La réaction des disciples en dit long sur leur propre conception du mariage, n'est-ce pas? Ces disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, il vaut mieux ne pas se marier. Bon, c'est trop dur cela, Jésus. Bon, ils ont du progrès à faire en tant que disciples, n'est-ce pas? Tout comme nous, nous avons du progrès à faire en tant que disciples. Mais cela suscite une réaction de la part de Jésus sur la dernière partie de leur phrase. Il leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole. » La parole qu'il vaut mieux ne pas se marier, mais seulement ceux à qui cela est donné. Ensuite, Jésus parle des eunuques, car certains, et c'est l'exception, sont nés sans des organes sexués. D'autres, à l'époque que Jésus le disait, c'était bien le cas, le sont devenus par des hommes. Et ensuite, il mentionne une troisième catégorie. Il y en a qui se sont faits eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Non pas de façon littérale, mais de façon figurée. Ils ont choisi de rester célibataires pour le royaume des cieux. Selon le Seigneur Jésus, c'est donc possible de choisir être célibataire pour le royaume des cieux. Ce n'est pas une obligation de faire ainsi. Jésus souligne cela en terminant le paragraphe avec « que celui qui peut comprendre, comprenne », qui sert à complémenter verset 11, mais seulement à ceux à qui cela est donné. Donc Jésus vise une catégorie de personnes qui, de façon volontaire, choisissent de vivre ainsi, car ils veulent être consacrés au Seigneur. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une possibilité. Et c'est une possibilité que Paul lui-même, célibataire, développe lorsqu'il écrit 1 Corinthiens chapitre 7, dont je vous ai déjà parlé. Voici ce qu'il dit dans ce chapitre au verset 32. Je voudrais que vous soyez exempt de ceci. Celui qui n'est pas marié a ceci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Mais celui qui est marié a ceci des affaires du monde. Il cherche comment plaire à sa femme. Il est partagé. De même, la femme, son mari et la jeune fille ont ceci des affaires du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Mais la femme mariée a ceci des affaires du monde. Elle cherche comment plaire à son mari. Alors, ce n'est pas ici que c'est mauvais, selon l'apôtre Paul, de plaire à ta femme ou à ton mari. Si tu es marié, nous avons déjà consacré du temps là-dessus, tu dois faire cela. Mais ici, Paul simplement soulève la possibilité de ne pas devoir se marier. Dans un sens, il dit cela est mieux. C'est ce qu'il dit, car servir le royaume sans contrainte est une bonne chose. Verset 25, 35, je vous dis cela dans votre propre intérêt, non pas pour vous tendre un piège, mais pour que vous fassiez ce qui convient le mieux et que vous soyez attaché au Seigneur, son partage. Alors cela est une reproche, je pense, à nous, chrétiens évangéliques, si nous donnons encore l'impression au sein de notre assemblée qu'il y a quelque chose d'anormal de ne pas être marié si nous sommes adultes et que c'est au mariage où il y a la joie et l'épanouissement dans la vie. Non, être célibataire pour le royaume des cieux, comme Paul il était, est quelque chose de précieux. Il y a une place pour cela parmi nous. Je me souviens toujours d'une conversation d'un frère ougandais avec un frère européen, là où moi j'ai étudié la théologie, et le frère ougandais insistait auprès de ce frère européen qu'il priait pour que ce frère célibataire trouve une femme. Il priait une fois publiquement devant tout le monde parce qu'il avait à cœur ce frère européen. Il faisait ça une deuxième fois, il faisait ça une troisième fois. Et à ce moment-là, le frère européen a trouvé le frère ougandais. Il a dit, mon cher frère, merci de ne pas prier pour cela. Mais comment? C'est une bonne chose de trouver une femme, c'est ça ce qu'il te faut. Oui, mais je choisis, en tout cas pour le moment, d'être célibataire. C'est possible cela, vous savez. Et tellement cet autre frère avait du mal à comprendre cela, qui continue à dire, ben, je ne vais plus prier en public, mais je vais continuer à prier en privé pour vous. Mais ce n'est pas parce que je suis célibataire aujourd'hui, et c'est le cas pour certains d'entre nous, que nous devons rester célibataires. Je suis libre de me marier. La plupart d'entre nous fera cela. C'est bien. Mais c'est un rappel, et dans le même chapitre, Paul le rappelle lui-même, d'exploiter nos circonstances présentes, là où je me trouve aujourd'hui, pour la gloire de Dieu, pour son royaume. Paul dira dans le même chapitre que dans un certain sens, nous devons tous nous rappeler que le temps est court. Et vivre pour ce qui est le plus important, c'est ça notre appel, la venue du royaume des cieux. Un tel engagement doit caractériser l'ensemble de nos activités, que nous soyons mariés ou pas, de vouloir chercher d'abord le royaume des cieux. Alors Edwin, lorsque je lui ai parlé de son mariage, avant d'évoquer le pardon comme étant la clé pour son mariage, a parlé d'un mariage qui avait comme objectif de servir le Seigneur ensemble, de prier régulièrement ensemble, que cela permettait à deux, Edwin et Anne, de cheminer vers le même but. Au lieu de se replier sur eux-mêmes, et beaucoup aujourd'hui font cela, ils cherchent l'épanouissement de la part de l'autre, plutôt que de voir l'autre comme étant un moyen qu'à deux, en tant que nouvelle unité sociale et familiale, nous nous mettons au service de Dieu. Ils travaillaient ensemble à la réalisation d'un objectif commun. Et cela libère la pression qu'il y a parfois au sein du couple, l'égoïsme qu'il y a au sein du couple, et permet le contentement de marcher ensemble pour la gloire de Dieu. Je termine, chers amis, avec une citation que j'ai trouvée utile dans ce sens-là. Je cite, « La raison ultime de soutenir et d'entretenir un mariage, malgré ses défauts et ses défis, n'est pas seulement le bonheur humain, mais aussi la gloire divine. Un mariage centré sur l'Évangile est une métaphore vivante du Christ et de son Église. Dans un monde embourbé dans des satisfactions temporaires et des engagements superficiels, les mariages ancrés dans l'Évangile sont des phares d'espoir. Ce sont des alliances sacrées, pas seulement des contrats sociaux, et Dieu s'y investit profondément. Lorsque les couples s'approchent de Dieu, ils trouvent la force de relever les défis qui se présentent à eux, qu'il s'agisse de distance émotionnelle, du stress financier ou d'imperfection. Ils découvrent la joie de l'obéissance à la parole de Dieu, la satisfaction du sacrifice partagé et la paix qui surpasse toute compréhension lorsqu'ils ancrent leur relation dans la foi. Prions ensemble. Combien, Seigneur, nous te louons pour ta fidélité envers nous, pour le pardon que nous avons reçu en Christ. Et combien nous t'implorons, Seigneur, que chacun de nos mariages ici représentés dans cette Église, dans le présent ou même dans le futur, puisse être un reflet de cette fidélité que tu as envers ton Église. Te prions de nous donner encore un nouvel élan de vouloir aimer nos conjoints respectifs, de travailler, de continuer à user de patience et de persévérance, de l'espérance, et de vouloir mettre en avant la gloire de Jésus-Christ. Et nous te prions, Seigneur, que nous soyons convaincus que c'est en Jésus-Christ que nous trouvons le pardon, même pour des moments ou des mariages qui ont échoué, que nous puissions être conscients que nous cheminons avec toi aujourd'hui et que tu as encore une disposition gracieuse envers nous si nous nous tournons vers toi et en nous te demandant de nous encourager et de chercher de l'encouragement et de l'aide si nous en avons besoin. Te prions tout cela au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.